France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle balade dans le temps. Dans le rétro, c'est un voyage spatio-temporel avec un invité. Moi, c'est Déborah Grunewald, si on ne se connaît pas. Pendant ce voyage, on revient sur une carrière, une vie. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous êtes abonné depuis un certain temps, dans ce podcast, il y a parfois des choses à apprendre sur nous-mêmes en écoutant les autres. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur humoriste qui a eu le courage de faire de son rêve une réalité. Il a osé repartir de zéro pour ne jamais avoir de regrets. On l'imagine dans la vie comme son personnage de cette série sur TF1. Drôle et tendre, mon invité aujourd'hui c'est François-Xavier Demaison, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Poussin.
Oh, bonjour Déborah. Poussin, c'est comme ça que m'appelle Michel Jonas, mon papa dans la série.
Qui s'appelle Papi Cachou dans la série. C'est ça, non?
Papi Catou.
Ah, mais j'ai compris Papi Cachou. Moi, à chaque fois, je me dis, ah tiens, ça, il doit y avoir une vanne derrière.
Non,
ah,
Papi Catou.
François-Xavier Demaison, vous êtes le négociateur dans la série du même nom sur TF1 le lundi soir. Des prises d'otages dans une banque, dans une exploitation agricole, dans un palace, dans un centre sportif. Il y a une course contre la montre, contre un poseur de bombes. Il y a de l'action, des rebondissements. Et de l'humanité aussi.
Oui, c'est vrai, c'est tout ça cette série. C'est une comédie policière familiale.
C'est rare d'allier la comédie et le thriller.
C'est un style que j'ai toujours aimé dans les films de ma jeunesse, de mon enfance parfois, comme L'Arme Fatale ou les films avec Bruce Willis, Piège de Cristal. Il y a toujours de l'action, très premier degré, et puis il y a un peu d'humour, et puis il y a un personnage un peu sympathique qui se prend pas trop au sérieux. Moi, j'aime ça.
C'est ce que j'allais dire. En fait, il faut pas que vous vous preniez trop au sérieux, quoi, en gros.
Oui, j'aime bien quand effectivement le personnage des Amors, c'est le cas de le dire, mais quand le personnage, oui, fait un pas de côté pour... voilà, pour le spectateur, c'est toujours super jubilatoire, super agréable, je trouve.
Et vous êtes un papa tendre aussi.
Oh oui.
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 C'est un peu vous, ça, non?
Oh oui, c'est moi. Vous demandez à mes enfants, enfin, ma dernière qui a 18 mois, je ne suis pas sûr.
On peut lui demander.
En tout cas, elle dit papa. Elle dit papa, elle dit maman, elle dit pipi, elle dit caca. Voilà.
Oh bien.
Bon, c'est flatteur, mais bon.
La plupart des intrigues de la série sont symptomatiques d'une société qui va mal. Est-ce que ça dépeint la société d'aujourd'hui, cette série?
C'est ça qui m'a plu aussi, c'est que les intrigues sont très actuelles, très modernes. On est vraiment dans des problématiques qui touchent, qui vont toucher les gens parce que ce soit l'agriculteur qui a du mal à joindre les deux bouts, et on l'a vu récemment, c'est une réalité. Que ce soit la maman qui pète un plomb parce que sa fille a été victime de harcèlement et s'est suicidée, que ce soit effectivement des influenceurs qui propose une vie un peu artificielle à nos enfants parfois. Tout ça, c'est très actuel, très moderne. Le surendettement, on a de l'empathie pour ces preneurs d'otages.
Mmh. C'est-à-dire que ces salauds, qu'on pense être salauds en fait, bah, c'est des gens lambda, gentils, sympas, et on se prend d'affection pour eux.
C'est des gens qui dérapent, qui commettent l'irréparable, et le négociateur va les aider à limiter les conséquences de leurs actes. C'est un peu la dernière chance avant l'intervention. On a discuté récemment avec un négociateur qui nous disait que 90% des négociations conduisent à une fin, pacifique. De ce genre de conflit.
Il faut être un peu psychologue aussi, non?
Ah, c'est primordial. Il faut être policier, psychologue. Il faut être, comme mon personnage, ultra empathique, ouais. Hyper empathique.
6 épisodes au total. Il y a un homme endetté, futur père, qui va braquer une banque. Il y a un
agriculteur. Qui est magnifiquement interprété par Kevin Azaïs, César du meilleur espoir pour les combattants.
Il y a un agriculteur aussi qui refuse qu'on euthanasie ses vaches et qui veut se suicider. Il y a cette maman dont la fille a mis fin à ses jours. Le négociateur, c'est l'histoire de gens complètement désespérés finalement. Le désespoir, vous pensez qu'il peut nous faire faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est la main tendue, c'est le moment où on voit plus de finalement la lumière, qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte et dire « Regardez, il y a aussi cette solution-là, il y a aussi cette... » Quand on va pas bien, ça nous arrive à tous, on voit tout en noir. Et puis il suffit d'un ami ou de quelqu'un qu'on aime qui va démythifier, dédramatiser la situation pour qu'on reparte de nouveau. Et ben le négociateur, c'est un peu le... C'est pas l'ami, mais en tout cas c'est quelqu'un en qui les gens, les forcenés peuvent faire confiance. Et c'est cette confiance qui va les conduire peut-être à trouver une voie un peu moins catastrophique violente qu'une intervention. Oui.
Même dans les situations de stress, Antoine Clair, votre personnage, fait des vannes. C'est votre cas aussi dans la vie, pour dédramatiser, vous faites de l'humour ?
Oui, je crois que c'est primordial, hein. C'est vraiment, c'est vital. Hein, Et ça, on partage ça avec le coproducteur de la série, Alexandre Amiel. On aime cet humour comme ça, sur le fil. On aime dédramatiser les situations avec du rire, ça fait tellement de bien. Et puis quand on réfléchit bien, il n'y a rien de très très grave finalement, à part la santé, de nos proches, ou tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier, bon bah ça mérite d'être relativisé parfois, oui.
Ouais, mais c'est difficile parfois.
Hein. Ben, oui, c'est ça, on est parfois dans des situations, je dirais, dramatiques, comme les gens de la série, mais il y a aussi, je pense, une éducation à parfois, quand il nous arrive des petites emmerdes, se dire, allez, bon, voyons le côté positif, qu'est-ce qui se passe, comment en rire aussi pour se détendre un peu aussi.
Essayer de trouver le positif aussi,
voilà,
parfois.
Aussi, ouais. Voilà, aussi, voilà. Je parle pour moi, hein, bien sûr.
François-Xavier de Maison, votre boss dans la série, c'est Hélène Bagnier, pas
oui.
Très diplomate, psychorigide, d'apparence pas très sympa. Et vous, Antoine Clerc, c'est un personnage au cœur tendre, un cœur pur, comme dit votre papa. Vous êtes un cœur tendre, vous, François-Xavier de Maison ?
Je crois que oui, je crois que j'ai un bon fond. Effectivement, je crois que je suis assez sensible et assez sensible aussi au bien-être des autres.
L'empathie.
Oui, voilà, je crois que j'ai envie que tout le monde aille bien, en fait, autour de moi. J'ai envie que tout le monde soit heureux, que tout le monde aille bien. C'est parfois un peu usant.
Ça veut dire que quand les autres vont pas bien, vous n'allez pas bien non
voilà,
plus, quoi.
Comme dirait Jacques Brel, j'ai mal aux autres.
Il y a le boulot et il y a la vie de famille dans cette série Le Négociateur. 3 mariages, 3 divorces, 3 ex-femmes. Est-ce qu'il a raté sa vie amoureuse, Antoine Clerc ?
Ben non, parce que toutes ses ex-femmes et toutes ses filles, finalement, s'entendent bien et font famille. Donc moi, j'aime cette vision de la tribu, comme ça, apaisée, où tout le monde s'entend bien. Parfois, c'est un peu le bordel, mais j'aime ces grandes tablées qu'il va faire avec son papa, ses ex-femmes avec qui il s'entend bien et ses enfants.
C'est un papa, on pourrait dire, nouvelle génération aussi,
oui,
non ?
Moi, j'y crois beaucoup. Ouais. Ça, je crois qu'effectivement, il a une part de féminin, de maternel, de nounou en lui, qui me correspond bien, en tout cas, qui incarne pour moi la vision de cet homme à une nouvelle génération, en tout cas, moi, une version qui me correspond bien, qui me va bien.
C'était pas le cas. C'est vrai que dans les films de l'époque, les papas étaient plutôt taiseux, assez durs.
Écoutez, moi je suis allé il y a 2 jours emmener ma fille chez la pédiatre. Dans la salle d'attente, il n'y avait que des papas.
Et pendant les vacances, il y a beaucoup de papas aussi,
ouais,
qui s'occupent des enfants.
Ils étaient hyper contents d'être là, les papas dans la salle d'attente. Ils n'auraient pas laissé leur place, les papas. Hein.
Nous, on la laisse.
Ils avaient candidaté, ils étaient motivés.
De l'action, de la vie, des histoires de famille. Le Négociateur, réalisé par Arnaud Mercadier, c'est sur TF1. 2 épisodes chaque lundi soir jusqu'au 8 avril. À découvrir aussi sur le replay MyTF1 avec François-Xavier Demaison, Jeanne Bourneau et Michel Jonas, production caméra subjective et B2 Films. François-Xavier Demaison, on va embarquer pour un voyage dans le temps. Un voyage qui commence en 1973. Cette année-là, Michel Sardou chantait La maladie d'amour. On l'écoute sur France Bleu.
Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui colère. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77.
La maladie d'amour sur France Bleu, Michel Sardou passe un bon week-end dans le rétro. Nous sommes avec l'acteur François-Xavier de Maison.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Vous êtes prêt à remonter le temps, François ?
Ah oui, je suis prêt.
J'allais dire François-Xavier, c'est long à dire,
oui,
François-Xavier
je sais,
de Maison.
Appelez-moi FX.
Ok, FX. Allez, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez à Asnières-sur-Seine, en région parisienne. Votre père, Jacques, est conseiller juridique et il sera ensuite avocat, comme votre maman, Florence. Avoir grandi avec des parents qui travaillent dans le droit, est-ce que ça a joué sur votre façon de voir la justice et l'injustice aussi, parfois ?
Peut-être oui. Moi, je crois que c'est surtout ma sœur qui est avocate, Céline, qui est une grande avocate, qui, elle, a vraiment ce sens du juste et de l'injuste, et qui était la plus jeune avocat à prêter serment au barreau de Paris, quand elle a prêté serment, je crois, à 21 ans.
Ah oui.
C'était tout à fait incroyable. Et elle, elle a vraiment ça chevillé au cœur et au corps, c'est ce sens du juste et de l'injuste. Moi, je rêvais de théâtre très tôt, à petit garçon que j'étais avec son pull jacquard. Vous vous souvenez le petit...
Ah mais on va y aller, on va aller faire un petit tour là-bas.
Bon, très bien.
Ah oui.
Moi j'étais dans mes rêves, j'étais pas... Et c'est mes parents qui me poussaient à avoir une scolarité normale et à avoir des bonnes notes.
Mais c'est quoi une scolarité normale ?
Bah, c'était leur vision à eux, c'était quelque chose d'universitaire, de... Vous savez, en 73, dans les années 80, être adulte, c'était avoir des horaires de bureau, c'était se raser de près, mettre de l'aftershave à quoi elle va, et aller bosser le matin avec une cravate. Voilà, c'était ça la vision de... Et moi qui étais dans mes rêves et qui rêvais de devenir acteur, je pense que ça inquiétait un petit peu mes parents. Voilà.
Des parents et une sœur, donc avocat.
Ouais.
Se faire justice soi-même, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur en France. Mmh. Dans la série dans laquelle vous jouez le négociateur, certains des personnages se font justice eux-mêmes. Mmh. Est-ce que vous avez déjà entendu vos parents en parler ou s'inquiéter de ce phénomène ?
Nous, on a toujours été, enfin mes parents ont toujours été, ont toujours cru à la décision de justice. Voilà, donc ils bossaient beaucoup pour que le dossier et les conclusions soient, je dirais, les meilleures possibles. Mais ils ont toujours cru à la décision de justice, à l'état de droit, et moi aussi. C'est comme ça que j'ai été élevé.
Ils en parlaient quand vous étiez petit ?
Quand on était à table, oui, de temps en temps, c'était vraiment un ping-pong. Moi, j'avais l'impression, oui, d'avoir comme ça des accès. Alors, ils ne me donnaient jamais les noms des gens, mais j'avais l'impression de rentrer dans la vie des gens. Est-ce que ce n'est pas ça qui m'a, quelque part, inspiré, donné l'envie de raconter des histoires,
ouais,
qui m'a pas familiarisé très tôt avec la psychologie humaine, les drames humains, parfois. Je me souviens d'une histoire terrible, d'une femme qui se faisait emmerder par un type avec un crochet. Quand vous avez 10 ans et que vous allez vous coucher là-dessus, vous avez l'impression d'être dans un film, quoi. Malheureusement,
bah c'est parfois
la vie des gens. Mais effectivement, c'était très inspirant, je crois.
On rappuie sur le bouton, c'est parti. Nous sommes chez le coiffeur.
Ah oui.
Vous avez 10 ans. Pendant que votre maman se fait coiffer,
oui,
vous vous amusez avec le balai. Vous faites rire les clients.
Oui.
Là, il y a un producteur de cinéma qui entre.
Oui.
Il travaille juste en face et il vous propose de passer des essais. Votre mère n'est pas très enthousiaste. C'est votre grand-père qui va vous y emmener.
Les gars, les mains, foutez-moi.
pantalon de flanelle gris, pull jacquard, vous faites des imitations, vous êtes à l'aise. Vous auriez pu avoir un pied dans la comédie ce jour-là, mais votre mère n'a pas accepté leur proposition.
Oui, elle ne l'a pas accepté, elle ne me l'a pas dit.
Vous l'avez su plus tard.
Je l'ai su il y a quelques années. Donc j'ai grandi avec cet échec, qui n'en était pas un, puisqu'il avait été séduit. Je faisais des imitations, enfin j'étais un sous le luron. Mais bon, à 10 ans, c'était pas mal. Je me souviens, j'avais mon petit pull jacquard. Vous savez, c'est ces petits pulls qui étaient tellement moches devant qu'ils n'ont pas osé faire la même chose derrière. On était sortis de là, mon grand-père m'avait acheté une gaufre avec du sucre glace. J'en étais foutu partout sur le pull, sur la flanelle. Et ça part pas bien sur la flanelle, le sucre glace qu'ils font. Et vous voyez, c'est des souvenirs d'enfance, c'était il y a 40 ans.
C'est dingue parce que vous avez eu une première chance donc à 10 ans. Votre mère en a décidé autrement finalement. Vous avez tracé votre route et à 27 ans, vous décidez de changer de vie pour devenir acteur. Vous en avez voulu à votre maman ?
J'en ai pas voulu, j'ai passé l'âge d'en vouloir à mes parents. Qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour moi au moment où il le fallait, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas compris qu'elle me dise pas plus tôt qu'effectivement j'avais réussi cette audition. J'ai porté cet échec, ce sentiment de rejet, parce qu'à 10 ans ça fait mal hein, quand même, quand on vous rappelle pas, quand
on se pose les questions, voilà. On triture le cerveau,
j'étais
nul.
Oui c'est ça. Et donc je pense que je l'ai intégré, que je l'ai caché quelque part dans mon inconscient et j'aurais peut-être pu éviter, bon...
Est-ce que vous pensez que parfois, les parents peuvent nous détourner du chemin qu'on rêve d'emprunter ?
Je pense que si c'est vraiment notre vocation, on y revient toujours. Moi, c'était trop fort.
Le destin est écrit ?
Moi, j'étais quand même dans un bureau, j'étais fiscaliste, j'ai fait droit, Sciences Po, donc j'étais quand même dans une voie toute tracée. Et j'ai quand même réussi à m'en extraire pour devenir acteur.
Toujours dans la série Le Négociateur, François-Xavier de Maison, qui est sur TF1, votre fille veut intégrer l'école de police. Vous voulez l'en dissuader, vous lui dites « Ça fait 17 ans que mon boulot, c'est de te protéger. Alors te voir prendre des risques, c'est pas facile. » Parfois, finalement, les parents veulent pas voir leurs enfants emprunter certains chemins parce qu'on veut les protéger, peut-être aussi un peu.
C'est sûr. Moi, je vois bien avec mes filles, moi, si je pouvais les mettre sous couveuse, hein, je vais vous dire, franchement... Et puis ce monde qui nous entoure, voilà, on se dit qu'on est à nous armés adultes pour l'affronter, mais quand je vois mes petites filles, je me dis est-ce qu'elles sont, voilà, j'ai pas envie qu'on leur fasse de mal. Moi qui suis très doux et très tendre, si on s'en prend à mes enfants, je sais que je suis capable de vriller.
Mais est-ce qu'on peut les protéger de tout ?
Non, hélas non. Je crois que on n'est pas propriétaire de ses enfants. Il y a cette métaphore de la flèche. Finalement, on est l'arc et eux ce sont la flèche et on ne sait pas où elle va atterrir.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Allez, on y retourne. Nous sommes à Sainte-Croix de Neuilly.
Oh.
Vous êtes là en classe. Bon élève, toujours au premier rang, concentré, des notes excellentes, 19 sur 20, maths au bac, une scolarité exemplaire.
Je vais vous arrêter tout de suite. Tout cela est faux, bien entendu. Je suis plus proche du radiateur. Vous savez, j'ai ces souvenirs aussi des moufles ou des gants qui sèchent sur le radiateur. Voilà. Donc ces vieux radiateurs comme ça en béton, en fonte. Je rêve, je pars loin. Mais vraiment, je pars loin. Je peux disparaître pendant tout un cours de maths et me réveiller tout d'un coup. Et le prof qui me dit, écoutez, rendormez-vous. Parce que là, franchement, si c'est pour nous dire ça, ça sert à rien.
Je veux quand même rétablir une vérité. C'est pas 19 sur 20 en maths au bac, c'est 3 sur 20.
Oui, j'ai eu 3 sur 20 au voilà. Maths, en bac. C'est du coup très difficile d'avoir la légitimité pour dire à ma fille que voilà. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des cahiers de vacances.
Ouais, mais faut pas le dire ça à ses enfants aussi. Qu'on a été mauvais élève ou qu'on a eu des mauvaises notes ou on le dit plus tard quoi quand ils sont grands non ?
Non mais je peux pas lui cacher déjà sinon je l'aiderais à faire ses petits exercices mais je suis totalement incapable. Non c'était mon point faible.
À Sainte-Croix, il y a François Polgar, l'abbé Robin, Monsieur Doléance, il y a ce voyage à Rome en 5e, ces après-midi en plein air, les sorties piscine, boulevard Inkermann. Mais il y a une certaine cruauté dans la cour de récré.
Oui, il y a une cruauté. Enfin,
par rapport à quoi ?
C'est l'adolescence. Moi, je suis un peu rond, donc je ressens quand même une certaine violence. On ne vous fait pas de cadeaux, hein. Tout ce qui est différent, ça passe pas. Quoi. Et puis, on surprend aussi à reproduire ça aussi, à être méchant avec d'autres pour d'autres raisons. Et c'est un cercle un peu vicieux parfois.
Comment on s'en sort alors finalement ?
Ben, on a 17 ans, je crois.
Ouais, c'est le temps.
Et puis voilà, c'est le temps. On a 17 ans et on passe son bac. J'ai un bon souvenir de la terminale, c'était plutôt sympa.
François-Xavier de Maison, vous avez produit un documentaire qui s'appelle « Mon maître d'école ». On y découvre Jean-Michel Burel, un instituteur à un an de la retraite.
On grandit en tombant, en se blessant, en grimpant à une branche, en tombant de la branche, c'est comme ça. Ça, c'est la vraie école, c'est l'école de la vie.
Pour ses élèves, il a été pendant plus de 30 ans maître Burel, celui qui leur délivrait le savoir et les ouvrait au monde, celui qui leur a donné confiance en eux et en l'école. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé chez cet homme ?
J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce monsieur. Cet instituteur, je dirais, républicain, sincère, qui croyait vraiment que dans sa salle unique, dans ce petit village Saint-Just-et-Vacquières, il allait pouvoir changer la trajectoire de certains, faire que le monde soit meilleur, leur léguer, en plus du savoir scolaire, des vraies valeurs. Et il m'a vraiment séduit, cet homme, et cette scène finale où tous les élèves, pour son jour de départ en retraite, se retrouvent sous l'arbre. C'était vraiment magnifique.
Qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel pour qu'un élève et un enfant, finalement, deviennent un adulte épanoui ?
C'est croire qu'il a sa place, lui faire comprendre qu'il a sa place dans la société, d'où qu'il vienne. Quel que soit son passé, il a un avenir, quel que soit d'où il vient, il peut choisir où il va.
Leur faire confiance aussi,
oui,
finalement.
Leur faire confiance, leur faire comprendre qu'ils ont leur place et que c'est eux la société de demain.
Ouais. Vous êtes adolescent, François-Xavier Demaison.
Oh, mon Dieu.
C'est le temps des premiers amours, des slow, des premiers flirts.
Oui.
À l'époque, avec les filles, vous dites que vous avez du mal à embrayer.
Oui, je vous confirme pour cette métaphore automobile.
C'est votre métaphore, hein, d'ailleurs.
Tout à fait, mais je crois qu'elle est particulièrement adaptée à votre émission.
C'est vrai.
En tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui sont les plus popular guys. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Dans les films américains, vous avez toujours le mec qui joue dans l'équipe de football américain, qui a des gros muscles, et puis le Teddy bicolore. Non, moi je ne suis pas celui-là, je suis, je vous dis, un peu rêveur, je fais marrer de temps en temps les filles, et c'est principalement mon argument de séduction. Enfin, on dit souvent, femme qui rit à moitié dans son lit, moi j'avais surtout l'autre moitié. Hein.
Est-ce que vous faites partie, par exemple, de ceux qui finissent par demander « tu préfères qu'on reste amis ?»
Oui, complètement. Ça,
ah oui.
Ça m'a. J'ai un souvenir vivace d'une fille que je la raccompagne et puis à un moment donné, je sais tellement qu'elle va me le dire que je lui dis. C'est moi qui lui dis carrément.
Vous tirez une balle dans le pied.
Je me tire une balle dans le pied. Je m'auto-sabote et je lui dis, écoute, je crois que tu préfères qu'on reste amis. Elle me dit oui, tout à fait. Bon, très bien. Bon, au revoir. Bonne soirée.
Mais c'est tellement commun en fait.
Tellement commun. Et puis la boum, vous voyez, ça me rappelle le quart d'heure américain.
Ouais.
Les gens de ma génération, je sais pas.
Ah bah la même.
Voilà. C'était les filles qui choisissaient les garçons. Et c'est vrai que souvent, je me consacrais au buffet pendant ce moment-là.
Le premier amour, pour vous, ça représente quoi ?
Bon, il est platonique. Hein. C'est toujours la plus belle. La plus belle fille de la classe, qui avait plein d'amoureux, qui faisait rêver tout le monde. Moi, je me disais, moi, c'est elle aussi qui me plaît.
Il y avait de la concurrence, quoi.
Ah oui, et puis c'était totalement impossible. C'est-à-dire que c'était même pas en rêve.
Et la première peine de cœur ?
Ah, bon, bah justement, quand cette fille qui a fini par en choisir un, ça me ramène à ma condition.
Et puis un jour, à 17 ans, François-Xavier Demaison, au club d'aviron de Courbevoie, vous rentrez dans les toilettes et quand vous ressortez, vous n'êtes plus vraiment le même. On s'attarde ou pas ? On n'est pas obligé de s'attarder, hein.
Écoutez, oui, c'est un détail important. C'est vrai que j'ai perdu... Je suis devenu un homme.
Dans les toilettes ?
Oui, c'était totalement ridicule. Une fille plus âgée que moi en plus, très bienveillante, qui m'a permis de changer de profil Facebook. Ça n'existait pas à l'époque.
Passer de célibataire à en couple, quoi.
Oui, enfin, bon...
Vite fait, quoi.
Le couple n'a pas duré longtemps. En tout cas, c'est une fille géniale. Et je la remercie de sa bienveillance et de son indulgence.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Élève à Sainte-Croix de Neuilly, classe préparatoire au lycée Pasteur. Ouf.
Non.
Ah non ? Ah,
non,
je croyais.
C'est une erreur dans ma bio. Non, j'ai pas fait de classe préparatoire, je suis allé tout de suite en fac à Nanterre.
Maîtrise de droit ?
Oui.
Et sciences politiques ?
Oui.
Téléportation.
Allez.
En déformant la vérité en plus, cette dernière, ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire nous et notre amitié.
Plus fort, plus là.
Pourquoi chercher à détruire ce qu'on a de plus précieux ?
Nous sommes en plein cours de théâtre, au
oui.
cours Florent.
Oui.
Parallèlement à vos études, vous suivez ces cours avec l'envie de devenir comédien.
Tout à fait.
Un rêve né quelques années plus tôt, mais que vous n'avez jamais pu concrétiser. On pourrait dire que cette fois, ce sera la bonne.
J'aurais voulu être un artiste.
Mais non, ce sera pas la bonne. Finalement, vous embrasserez une carrière de fiscaliste.
New York,
si on faisait mon biopic, ça coûterait très cher en droits musicaux quand même.
Ah bah c'est clair. C'est du haut niveau, hein.
Oui.
Fiscaliste aux États-Unis à New York, on dit que l'argent dirige le monde. Vous confirmez ?
Alors oui, malheureusement. Alors, en tout cas, moi j'ai pris conscience ce jour-là que le matin du 11 septembre, quand je me réveille et que je vois New York à feu et à sang, cette cendre partout, ces gens qui remontent du World Trade Center couverts de cendres, tout d'un coup cette ville qui m'a fasciné, la force, l'invincibilité de cette ville et de ce système, comme un géant au pied d'argile. J'ai l'impression que c'est un décor de théâtre et que derrière, je vais aller derrière un immeuble et qu'en fait c'est un faux building. Tout ça me paraît un peu artificiel et je me dis, si le monde est fou, autant être aussi fou que lui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fou que finalement oublier ses rêves de gosse? Moi je voulais être acteur, je rêvais de monter sur scène et je me suis dit, la vie est trop courte pour la perdre, à la gagner. Je ne veux plus être dans un bureau, je veux faire de ma vie cette aventure et vivre cette passion.
Mais finalement, vous avez choisi au départ cette voie de fiscaliste pour rassurer vos parents, parce que vous êtes marié aussi, je crois, donc il fallait assumer, en gros, c'est ça, quoi.
Assumer. Et puis mes parents avaient investi aussi sur mes études. Enfin, ils y croyaient, que j'allais faire une belle carrière. Ils étaient... Voilà, j'avais voulu les rassurer aussi.
Est-ce qu'on est capable de se détacher, en fait, de ce que les autres envisagent pour nous? Les autres, ça peut être la famille, ça peut être les amis, parfois ça peut être la société.
Moi, j'ai mis très tard à le faire, hein, quand même. Il y a des gens qui arrivent plus tôt, qui arrivent à assumer plus leur vocation plus tôt. Moi, j'ai mis du temps et puis finalement, ça m'a servi d'avoir ce cursus, mais j'aurais peut-être pu le réaliser plus tôt.
Vous devenez manager dans la fiscalité, donc internationale.
J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers. Je contrôle mon univers.
Maintenant, en fait, fiscalité, mais ça a duré qu'un temps. Vous allez finalement être humoriste.
J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves.
Ça y est, vous touchez du bout des doigts votre rêve. Ce sont effectivement les attentats du 11 septembre sur les tours jumelles à New York qui vont être le déclic et qui vont vous empêcher de passer à côté de votre vie. À New York, vous l'évoquiez il y a quelques secondes, c'était le chaos. C'est vraiment ce jour-là où vous dites « Ok, le monde est fou, soyons fous ».
Exactement.
Ça a
accéléré
le
un processus.
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que vous auriez encore été fiscaliste.
Je ne crois pas. Je pense que ça a été un choc cathartique qui m'a fait mesurer la fragilité de l'existence. Et je pense que j'ai eu un choc qui a accéléré une remise en question. On a tous dans la vie des chocs comme ça, une séparation, un licenciement, la perte d'un proche, une maladie, où on se dit c'est le moment ou jamais.
Vous décidez donc de changer de vie, vous vous mettez à écrire, ça donnera votre premier spectacle, on part en 2007. En 2007, premier one-man show, deux maisons s'envolent, des personnages, Jimmy Murphy, le boss américain, Gérard Martignan, le boxeur, Rosie, la prof de danse et l'animateur du séminaire en réorientation affective.
Et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation professionnelle. On va essayer de se parler. On va essayer d'apprendre à se connaître pour avancer ensemble dans le respect de l'autre. On va commencer par une présentation. Chacun va raconter son histoire, mettant en relief ses échecs qui sont parfois devenus des blessures.
Est-ce qu'il y a des échecs qui sont devenus des blessures?
Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu, mais effectivement, c'est ce jargon. Quand la forme, finalement, masque l'absence totale de fond. Cette espèce de jargon.
Mais non, moi je trouve pas, parce que cette question, on peut se la poser.
Oui, mais là, oui, c'est vrai. Non, mais là, ce personnage, il était. Oui, cette phrase, c'est vrai.
Mais ouais.
Mais voilà, il était comme ça, avec ses tables rondes, ses cafés fédérateurs. Il disait, on va tous se mettre en chaussettes et on va prendre un café fédérateur.
Et alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des échecs qui sont devenus des blessures?
Ah, bien sûr. J'évoquais le pull jacquard. C'est ma psychanalyse. C'est Rosebud. C'est le pull jacquard, le fameux. Effectivement, les échecs, ça nous...
Voilà, on ça dit nous, que ça nous renforce.
Ça nous renforce. Voilà. C'est
mais
Mandela
il reste une trace.
Qui disait soit je gagne, soit j'apprends. Donc, voilà.
France Bleu, dans le rétro.
Alors au début, pas facile. Dans des théâtres qui peuvent accueillir 800 personnes, il y en aura à peu près 12
oui.
qui auront payé
on
leur place.
On le met au premier rang, du coup.
Malgré tout, vous saluez comme s'il y en avait 800. Vous dites que vous avez souffert de ça.
Ah oui, je saluais, mais c'était Gilbert Bécaud à l'Olympia, quoi. Avec un panache devant ces pauvres personnes qui avaient l'impression de s'être perdues. Je rentrais, je lavais moi-même ma chemise. un soir, je suis rentré avec ma chemise sale, mouillée en tout cas de la scène. Et dans le wagon, il y avait 8 personnes. C'était les 8 personnes qui avaient assisté à mon spectacle. Et qui faisaient des petits signes amicaux du genre « Bien quand même, super, faut s'accrocher. Hein, »
Mais vous dites quoi à ce moment-là?
Écoutez, là, il y a des soirs où je rentre en me disant « Bon, ça va quand même être compliqué. » Parce que c'est vrai que ces 8 personnes, c'est quand même...
Faut rien lâcher.
Il y avait une attachée de presse extraordinaire qui s'appelait Tony Krantz, qui a remué ciel et terre, qui y croyait à fond. Et c'était au théâtre des Petits Mathurins. Et Bernard Muret et Jean-Louis Livy ont cru dans le spectacle. Et c'est devenu le spectacle à voir tout d'un coup au Petit Mathurin en mars 2005.
Ensuite, après chaque victoire, vous avez savouré.
Oui. Je savais d'où je revenais, hein, quand même. Ces salles vides, c'est difficile pour des spectateurs d'apprécier un spectacle d'humour quand il n'y a personne. Donc là, tout d'un coup, les salles se mettaient à vibrer, les gens riaient, sortaient enthousiastes, les standing ovations. Donc, les victoires, c'était le chant lexical de Samuel Le Bihan, mon producteur et ami, qui avait cru en moi. Un acteur qui croit dans un autre acteur, c'est rare. Et au même moment, il y a Antoine Decaune qui vient me voir sur scène et qui me propose le rôle de Coluche. C'est next.
On va en parler.
D'accord.
François-Xavier de Maison s'envole d'abord. Il y aura aussi François-Xavier de Maison s'évade. Il y a donc la scène, il y aura de la figuration aussi dans les clips, des petits rôles au cinéma jusqu'en 2008. Nous sommes dans une salle de cinéma. Sur l'écran, le biopic Coluche, réalisé par Antoine Decaune.
C'est pas un petit peu opportuniste, cette soudaine envie pour la politique?
Ah, mais moi, tant que je suis sur scène et que je fais les sketchs, je suis un clown, hein. J'arrêterai de faire de la politique quand les hommes politiques arrêteront de nous faire rire. C'est pas gagné.
Vous incarnez donc Coluche dans ce film. Vous montez sur scène aussi pour faire rire le public. Est-ce que vous pensez que des humoristes comme Coluche ou des proches auraient le même succès aujourd'hui?
Oui, ils avaient l'intelligence de savoir ce qu'ils pouvaient dire ou ne pas dire. Et c'est vrai que c'était une génération, je pense qu'il se serait adapté.
L'humour, il faut savoir s'adapter et évoluer avec son temps.
Il se serait adapté à leur époque.
Parce que ça aurait choqué aujourd'hui, clairement. Oui. Parce que même déjà à l'époque, ils y allaient franco.
Ils y allaient beaucoup plus franco que moi, je peux y aller dans mes spectacles. Hein. Mm. Moi, je pars du principe que je ne veux pas rire de quelqu'un ou d'une minorité. Si je fais une blague sur le sujet, je dois pouvoir la faire et que ça fasse rire les personnes qui sont concernées.
Voilà. Que ça ne les blesse pas.
Exactement. Donc, on en revient à la cour de récré. Hein, le doigt tendu, les moqueries. Il faut rire avec.
Voilà. Et pas aux dépens d'eux.
Non. Il faut un peu plus écrire. Il faut un peu plus se creuser la tête. Mais il faut savoir rire avec.
Est-ce que ça ne rend pas l'humour un peu plus édulcoré aussi? Non, pas forcément.
Je crois pas. Je crois qu'il faut être plus créatif, plus imaginatif. Quand c'est drôle, c'est drôle.
Après Coluche, on vous retrouvera à l'affiche de Disco et du film Le dernier jour du reste de ta vie.
Le premier.
Ah, j'ai dit le dernier jour. Oh merde. Le premier jour, en plus, qui est magnifique. Ce film est magnifique.
Voilà.
La bande originale aussi.
C'est la chanson d'Étienne Dao.
Ouais. Sublime. 2009, tellement proche, Neuilly sa mère, le petit Nicolas. 2011, La chance de ma vie et moi, Michel G, milliardaire maître du monde. 2015, Arrête ton cinéma. 2017, Comment j'ai rencontré mon père. Vous doublez aussi des personnages dans des films d'animation. Le dernier en date, Encanto, de chez Disney en 2021.
Elle était sur le point de nous dire qu'elle est son super pouvoir.
Oh, Mirabelle n'en a aucun.
Bon, c'est pas vous, hein. Là, c'est le personnage principal.
Non, c'est pas moi qui
fais. Mais je suis sûre que vous pouvez
faire ça. C'est pas moi qui fais cette voix-là.
C'est pas mal.
J'aurais pu.
Non, moi, j'ai fait surtout Ralph avec Disney. C'est rigolo parce qu'il y a toute une génération qui a moins vu mes films, hein, forcément. Et quand je leur dis que je suis Ralph, alors là...
Non, mais moi, je parle d'Encanto, vous savez pourquoi?
Respect.
Parce que c'est pour ma question suivante.
Oui.
C'est un film sur la famille. Chaque membre possède un pouvoir magique, à l'exception de Mirabelle, qui vit avec la frustration de ne pas en avoir. C'est quoi votre don à vous, François-Xavier de Maison?
Peut-être oui, cette psychologie, cette capacité à mettre à la place de l'autre. C'est l'hyper-empathie de mon personnage dans Le Négociateur. C'est peut-être ça mon don.
L'hyper-empathie, c'est pas un handicap aussi?
Si, aussi. C'est très, très. Ça peut être pénalisant. Vous héritez des angoisses de tout le monde. C'est-à-dire que je vais rentrer dans une pièce et je vais hériter du bagage, des angoisses de chacun. Et du coup, je vais la prendre pour moi. Et en croyant que c'est mon problème à moi, alors que c'est leur problème à eux. Ça se soigne. Hein.
Ça se soigne?
Oui. Ça se soigne.
Parce que, comme vous dites, c'est un don aussi. Donc c'est là que c'est difficile de mettre un peu le curseur. C'est-à-dire que ça peut être difficile à vivre, mais en même temps, c'est une force.
Oui. Exactement. Ça peut être un des dons d'un prochain Avengers.
Par exemple.
Hyper en pas.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que parfois on peut passer à côté d'un don ou d'un talent ? Vous, ça n'a pas été votre cas, c'est la vie qui vous a rattrapé ?
Oui, après j'ai beaucoup travaillé. Hein. C'est Brassens qui disait, sans travail, un don n'est rien qu'une sale manie. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu l'envie d'être au rendez-vous, de ne pas décevoir. Et puis cette diversité d'activités.
Il y a la chance aussi un peu ?
La chance, mais la chance sur 25 ans.
On la provoque la chance ?
On la provoque, je crois. Mmh. Ouais. Ouais.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Alors on a parlé de ce qui vous a construit, de votre métier, de qui vous êtes, mais il y a un moment important dans une vie. Je pourrais vous emmener par exemple en 2007 ou en 2022. Vous êtes papa de deux filles. La première a 15 ans, la deuxième bientôt... d'à 18 mois, bientôt 2
oui,
ans. Quoi.
16 ans, elle a 16 ans,
ça. À 16 ans, ça y est. Être parent, on dit que c'est le plus beau métier.
Ah bah oui, c'est certain. C'est certain, je suis fou de mes filles et... mais c'est vrai qu'à la différence de mon personnage dans le film, enfin dans la série, le négociateur Antoine Clerc, mon métier parfois m'éloigne de ma vie de famille, les tournées, les tournages. C'est irrévocable hein, quand vous êtes à Toulouse pendant 3 mois et que votre fille elle est scolarisée à Paris, c'est compliqué.
Vous vous en voulez parfois ?
Oui, je culpabilise beaucoup, j'essaye de compenser au maximum et bon, je crois que j'y parviens.
Pourquoi vous dites j'essaie de compenser en montrant votre ventre ?
Non, pas du tout, je suis comme ça. Non.
Est-ce qu'il y a
des choses ? Je fais pas des crises de boulimie en disant je suis un mauvais père.
Je bouffe.
Je suis un mauvais père, remettez-moi un peu de frites. Non, non, pas du tout. C'était dans le sens j'essaie de compenser, d'être là, de voilà.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous dépassent parfois aussi ? Surtout quand on a une ado ou un ado ?
Ah bah c'est sûr, ces choses-là nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Et c'est sûr que ma fille de 16 ans, c'est pas triste, elle a une vraie partie à toute épreuve. Elle sait vraiment se tirer de toutes les situations en argumentant. Ça m'agace, mais à la fois ça me rassure.
Mais elle l'a appris de qui ça ?
Peut-être aussi un peu de sa mère.
Votre fille vous appelle le sang. Ouais. Vous dites, moi, si j'avais appelé mon père le sang, c'est le mien qui aurait coulé.
Oui, c'est une formule pour dire qu'effectivement, on était quand même beaucoup plus respectueux de nos parents que nos enfants, qui sont beaucoup plus familiers. Moi, ma fille, un jour, elle m'appelle, elle me fait frère. Ça va, frère ?
Je fais la même chose avec mon père.
Ouais.
Moi, je dis wesh, gros.
Ah ouais, ouais. Bah, moi, si je dis gros à mon père, déjà qu'en plus, il fait 110 kilos, je suis pas sûr que ça le fasse rire.
L'éducation, le lien avec les parents, il a changé ?
Je prends mon exemple.
Ouais.
Vous, apparemment, c'est cool. Moi, mes parents, c'était plus strict. Je me vois pas dire wesh, gros à mon père.
Ah ouais ?
Ou alors en 8e degré.
Bah oui, mais c'est 8e degré.
Non, mais
degré.
Même en 8e degré,
ah non, je ça
crois
passe
qu'il
pas.
Risque de s'arrêter au 5e ou au 6e. Ça risque de pas lui plaire.
Alors j'ai une question, est-ce que vous géolocalisez votre fille comme votre collègue Hélène Bagnier dans la série Le Négociateur ?
Non, je ne géolocalise pas ma fille. Forcément, je la géolocalise quand elle m'appelle pour prendre un taxi, puisque ma fille me prend pour une application. J'essaie de baliser le terrain. Je veux toujours qu'elle soit chez une copine ou chez un copain. Voilà. Elle a 16 ans et demi. Elle fait vraiment ce qu'elle... Voilà.
Ah, mais justement, 16 ans et demi, quoi.
Ah oui, voilà.
François-Xavier Demaison, vous êtes aussi le parrain de l'asso Le Rire Médecin.
Bonjour tout le monde, c'est François-Xavier Demaison. Je suis le parrain de l'association Le Rire Médecin. Vous savez, ce sont les clowns qui vont voir les enfants dans les hôpitaux. C'est extraordinaire de voir ces enfants qui rient, qui redeviennent des enfants malgré la maladie et qui rient aussi pour montrer à leurs parents qu'ils sont toujours des enfants.
Comment on fait pour pas pleurer face à ces enfants et face à ces familles que vous avez probablement rencontrées ?
C'est très éprouvant, surtout que vous avez des enfants qui sont hospitalisés provisoirement, des enfants qui ont des traitements beaucoup plus longs et beaucoup plus graves. C'est formidable ce que font ces clowns. Et
mais c'est ça Caroline Simon. C'est super dur.
Oui, c'est dur. Mais moi, je suis pas sur le terrain. Moi, je vais massacrer des chansons dans les émissions de Nagui.
Ouais, mais si vous êtes hypersensible, forcément, ça vous touche.
Oui, ça me touche, bien sûr. Et moi, ce que je peux faire, c'est de temps en temps leur ramener un peu d'argent, en parler, leur donner une exposition. Je n'en fais pas assez. Ça fait 15 ans que peut-être que je suis parrain de cette association. C'est Caroline Simon qui est venue me voir pour me le proposer. On va jouer au profit d'une association, on va ramener de l'argent. Bah, en 15 ans, je pense que ça fait quand même une bonne petite somme. Oui.
On peut faire un don d'ailleurs à tout moment sur le site lerirmedecin.org. François-Xavier Demaison, on termine toujours cette émission avec un extrait musical. À la maison, votre père écoutait Elvis, les Beatles ou encore Adriano Celentano.
Play it no more. No, 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 no.
et That Song. Et on va clôturer cette émission avec cette phrase de votre livre sorti en 2009 où vous racontez ce jour où votre vie a basculé après le 11 septembre et qui a fait que vous avez pris un autre chemin, celui qui vous était destiné. Je croise des personnes recouvertes de cendres, la foule panique, des gens tombent, je réalise ce que je suis devenu, un type décalé, pas heureux, qui vit à Disneyland. Au bout de mon cigare, il y a un pauvre con. Quel homme ce pauvre con, pour reprendre vos mots, quel homme ce pauvre con est-il devenu aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'il est devenu ? Je crois qu'il a compris peut-être que le monde est, que la vie est courte mais large. Voilà.
Merci François-Xavier
Demaison. Merci à vous.
Le Négociateur, c'est le lundi à 21h10 sur TF1 et TF1+ en replay, réalisé par Arnaud Mercadier avec Jeanne Bourneau, Michel Jonas et donc François-Xavier Demaison. Ancien négociateur de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, va être victime d'une prise d'otage et sera contraint de reprendre du service au sein du RAID cette fois. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous dans le rétro. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.